Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonsoir.
On se retrouve pour un nouvel épisode du Dernier Mot, et cette fois on va se demander pourquoi on parle de New Romance et qu'est-ce qui change dans notre perception des relations amoureuses. Je suis Maïli et je suis avec...
Ethan,
Elma
et Laetitia.
Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la New Romance pour vous et comment on pourrait le décrire ?
La New Romance, j'en ai surtout entendu parler à travers de certaines amies à moi. J'avoue qu'à la base, j'avais pas de définition très très claire de qui est-ce que ça pouvait être. Donc je leur ai un peu demandé, je me suis un peu renseigné en fait. Donc de ce que je vois, c'est surtout donc, une manière d'écrire la romance, donc des histoires un peu amoureuses, mais dans un contexte plus moderne, donc pas forcément avec les vieux livres qu'on peut avoir, et donc des trucs un peu ancrés dans notre époque actuelle, avec du coup bah, les problématiques qu'on peut avoir actuellement, et les contraintes, les complexes, les traumatismes qui peuvent y être associés, mais du coup tout dans un esprit un petit peu moderne, pour que bah, les gens d'aujourd'hui puissent vraiment s'y reconnaître. Pour moi, c'est ça la new romance.
Moi, je te rejoins assez dans ta définition. Je dirais que justement que la new romance, c'est un sous-genre du sous-genre de la romance. C'est un peu compliqué, mais c'est tout à fait ça. C'est du coup des relations avec des enjeux beaucoup plus contemporains qui vont parler du coup à des tranches d'âge assez jeunes. Je dirais plutôt entre 18 et 30 ans, vu l'âge des protagonistes. Mais on sait que souvent les lectrices, parce que ça touche principalement des femmes justement, sont bien plus jeunes. On verra d'ailleurs plus tard si ça peut être un problème. Donc c'est apparu en 2010. Ça a été propulsé, à mon sens, pour trois grandes raisons. Donc en tout premier, il y a le phénomène Wattpad. Donc c'était une application où les gens pouvaient écrire des fanfictions à l'époque, mais ça pouvait aussi être des histoires en tout genre. Donc il n'y avait pas de tranche d'âge, enfin tout le monde pouvait écrire. C'était très facile d'accès. Et justement, je pense que c'est ce qui a fait que le phénomène a explosé. C'était beaucoup des jeunes femmes qui écrivaient. Les autrices, elles testent directement leurs histoires, donc ça va toucher souvent des publics, mais de manière vraiment massive. Il y a énormément de gens qui se regroupent autour de ces fanfictions. Il y a ce principe de commentaire qui faisait que du coup les histoires étaient réclamées, la suite était réclamée en masse, donc ça propulsait les autrices sur le devant de la scène. Mais aussi les commentaires proposaient des idées qui pouvaient aider la créatrice, donc il y avait cet effet de collaboration. C'est là aussi où on a retrouvé un peu les débuts des tropes typiques qui vont se forger et qu'on va même détailler plus tard. Il y a aussi du coup tout ce qui est le phénomène de la démocratisation de l'auto-édition. Ça a permis à des autrices et des auteurs qui n'ont pas de connaissances dans le réseau éditorial, donc souvent ça va être des personnes d'origine d'un milieu populaire, comme j'ai dit en majorité des femmes, très jeunes, et donc qui sont en autodidacte, au lieu de publier leurs histoires sans passer par une maison d'édition traditionnelle, parce qu'il y avait quand même ce mépris autour de la romance qui était très présent.
Puis surtout, les maisons d'édition traditionnelles, c'est un certain milieu social. Il y a un peu cette glorification de la bonne phrase, des romans bien construits, etc. Ce qu'on ne retrouve pas du tout dans la new romance. C'est des trucs très bruts, avec des tournures de phrases très directes. On a beaucoup de phrases courtes, de dialogues, de points de vue internes, etc. Et c'est un peu quelque chose qui est fui par le monde de l'édition un peu plus classique.
Tout à fait d'accord, c'est justement ça, c'est un peu cette idéologie, je pense, du fameux débat sur la sous-culture, que bon, moi je trouve que c'est stupide de par ça. Ouais, cette idée-là qu'il faut des belles phrases, il faut des belles tournures, une bonne philosophie dans ton livre pour qu'il soit intéressant, ou même que ça aide intellectuellement les gens alors que peut parfois lire juste par pur plaisir. Et justement, je trouve que la new romance, elle touche beaucoup ce point-là, de juste pouvoir rêver un peu avec des enjeux contemporains qui touchent les jeunes. Aussi, du coup, l'autre raison qui fait que c'était avantageux l'auto-édition, bah, c'est surtout la raison économique, parce que ça coûte cher de passer par une maison d'édition, d'être corrigé, d'être publié en librairie, de faire toute sa pub, alors que là, de passer uniquement par les réseaux sociaux, ça a été d'une grande aide.
Après, ça se ressent aussi un peu dans les récits. C'est que les récits Wattpad, t'avais énormément de fautes d'orthographe, t'avais un style qui était très brut, très direct, qui n'est pas travaillé comme tu peux trouver dans les romans, qui ont 5, 6, 10 versions.
C'est un truc qui était assez intéressant. C'est justement cette espèce de mépris de la new romance et de justement cette espèce de nouveau style de livre. On pensait justement que ces œuvres un peu nouvelles avaient moins de valeur que des œuvres plus classiques. Juste parce que bah, ce seraient des œuvres nouvelles qui ne respectent pas les mêmes codes. Et du coup, pour cette simple raison, il y a une sorte, comme ça a été dit, de mépris de ces nouvelles œuvres. Et justement, ça fait vraiment comme si on avait une sorte d'élite qui, avec leur certaine culture préétablie, justement faisait ces sous-cultures pour dénigrer d'autres types d'œuvres qui sont juste d'un autre point de vue. Et que justement, cet autre point de vue, puisqu'il n'est pas reconnu et validé, il est tout simplement dénigré et mis à la marge. Justement, il se retrouve bah, sur des plateformes Wattpad qui ensuite se retrouvent avec plus ou moins des mauvaises réputations. Très souvent à tort, parce qu'il y a juste des gens qui expriment leur vision des choses sans respecter tout un ensemble de codes. Et ce que je trouve qui est important, c'est que cette manière de s'exprimer, entre guillemets, au naturel, bah, ça a beaucoup plus de valeur que des livres où justement on réfléchit à chaque phrase, où tout est tourné pour que ce soit soi-disant beau, mais justement pour correspondre à une sorte de cliché de la beauté, alors que justement, en soi, il n'y a pas de vraie base à qu'est-ce qui est beau. Et pour moi, ce qui justement représente une forme de beauté, c'est cet aspect naturel du texte. C'est le fait que tu vas dire ce qui te passe par la tête. Tu vas aller au cœur de ton émotion, de ton ressenti, de ce que tu vas imaginer, sans chercher à le travailler, sans chercher à en faire un produit particulier. Vraiment, c'est presque une sorte de matière première de la pensée. Et du coup, ça, tu te retrouves avec un texte qui est une sorte de matière première de la pensée et qui a, selon moi, plus de valeur puisque c'est quelque chose qui est naturel, qui vient spontanément. C'est pas quelque chose que tu vas retravailler. C'est pas un texte qui, au final, ne sera juste qu'un produit qui est là pour correspondre à des attentes. Ce sera quelque chose de vraiment humain. Et pour moi, c'est ça qui fait aussi un charme de la New Romance. C'est que ce sont des relations humaines, c'est que ce sont des points de vue qui sont justement pleinement humains et naturels, et qui ne sont pas juste là pour plaire à un certain public, à une certaine élite, et qui peut justement toucher tout le monde de par le fait que c'est quelque chose de plus authentique que ce qu'on peut trouver dans d'autres milieux.
Plus de valeur, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un point important, ça aussi, de... En fait, tout se vaut. La New Romance, ça date que de 2010, donc c'est assez récent quand même, on va dire. Donc c'est encore ce besoin de se trouver une place, et de surtout... de ne plus être autant dénigré que le reste de la littérature.
Après, il y a aussi une donnée qu'on met de côté, mais c'est le mode de consommation. Enfin, je ne lis pas pareil de la New Romance que des bouquins classiques. La New Romance, c'est plus facile à lire et plus facile de le consommer comme ça. Les romans classiques, des fois, la flemme de se poser et de réfléchir à ce que je suis en train de lire. T'as ce truc-là en plus, de pouvoir juste avoir un moment récréatif. Là où la littérature s'est passée à quelque chose d'élitiste et où il faut forcément avoir la bonne phrase, mais la bonne phrase, derrière pour la lire, c'est un enfer, elle fait trois plombes, c'est plein de métaphores et de choses comme ça. Parle-moi direct, comme ça on est clair sur qu'on veut en dire et c'est bon quoi.
Je trouve que c'est ça l'aspect le plus positif de la New Romance, c'est cet accès très simple, autant du coup pour les gens qui l'écrivent, mais autant aussi pour ceux qui vont le recevoir, même pour le marketing autour, parce que du coup, toujours dans cette logique des réseaux sociaux de comment ça a propulsé le phénomène, c'est aussi TikTok et notamment le BookTok, qui pour moi est un exemple parfait de comment on fait sa pub avec juste une simple vidéo qui dure même pas une minute. Les gens, ils vont le partager en masse, ça va faire énormément de clics, il y a beaucoup de partages, de recommandations qui seront dans des top tendances. Ça me fait notamment penser à Colleen Hoover. Donc, il y avait une période où on n'entendait parler que d'elle hein, sur le BookTok. C'est notamment celle qui a écrit It Ends With Us. Ses livres, ils étaient hyper populaires. Même en librairie, il y avait les sortes de brochures au devant des livres qui indiquaient tendance sur TikTok. Son livre, justement, dont je viens de parler, il a une adaptation au cinéma. Donc, c'était quand même un phénomène important. Quand on a dénoncé tout son côté problématique, ça allait aussi vite que sa popularité. Ça va à toute vitesse, du coup, sur TikTok.
Puis, t'as une vraie proximité avec le lectorat. Et souvent, c'est des lecteurs qui conseillent aux lecteurs. Donc directement, t'as quelque chose où il n'y a pas de notion de pression, d'intérêt ou de lobby. Il n'y a pas ce truc-là de cote ou popularité des grandes maisons d'édition. C'est t'as vraiment un truc de personne à personne. J'ai lu ce livre-là, je vous le conseille. Après, tu retrouves quand même toujours un peu les mêmes livres et toujours un peu les mêmes auteurs qui sont glorifiés. T'as vraiment ces grands noms, on va dire, qui ressortent, je trouve, dans le BookTok.
Je suis complètement d'accord. Déjà, l'avantage, c'est ça, c'est que des gens qui sont des simples lecteurs, ils jouent clairement un rôle limite de libraire, en fait. Clairement, ils conseillent autant qu'un libraire, sans du coup avoir besoin de se rendre en librairie, de devoir demander à quelqu'un, que cette personne prenne le temps à chaque fois de réexpliquer, de reconseiller. C'est en une seule vidéo qui est faite et qui se partage. Mais du coup, c'est ça, c'est qu'on va toujours retrouver à peu près les mêmes choses. Colleen Hoover, c'est pas pour rien qu'elle a toujours été en tendance pendant très longtemps, et que du coup, son nom était tellement populaire qu'à peine elle sortait un livre, il était en tendance, alors que ça se trouve, les gens qui le recommandaient ne l'avaient même pas fini.
Oui, puis en vrai, t'as un peu un truc où t'as cette surconsommation. Il y a énormément de livres qui sont sortis, je pense notamment à Morgane Moncombe, où elle a sorti 16 bouquins de 2017 à 2025. Ça fait 2 par an. Elle écrit 2 bouquins par an, mais pour moi, c'est pas un gage de qualité, ça. C'est ok, il y a un côté authentique, etc., mais t'as aussi un gros profit, je pense, qui profite à certains auteurs et qui pousse un peu le truc, on va dire.
J'ai une amie qui m'avait parlé de Morgane Moncombe avec justement les 4 saisons, où justement, en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que même si les livres ont des principes plutôt bien, au final, c'est un principe qui est assez mal exécuté parce que justement, c'est trop rushé, genre c'est vraiment en mode, comme c'était dit avant, surconsommation. C'est vraiment une sorte de trop grosse consommation de livres, une trop grosse production de livres, juste pour certains auteurs, au final, faire du profit. Et justement, on perd l'aspect un petit peu, comme tu as dit, authentique du livre. Maintenant, c'est plus un moyen de s'exprimer, de montrer sa vision du monde, mais plus un moyen de, malheureusement, faire du profit et de raconter des histoires qui, on sait, seront populaires, Donc justement, dans les 4 saisons, où il y a certains livres, celui dont elle m'a parlé, où c'est justement, je crois, celui de l'automne, où on parle d'une jeune fille qui va se rapprocher donc, de la personne qui l'avait harcelée. Et du coup, ça va faire une romance en mode d'ennemi à ami, je crois, je sais plus le terme qu'elle avait employé. Mais où justement, dans ce cas-là, on parle d'une relation qui à la base n'est absolument pas saine et qui va être rendue presque saine justement par une idéalisation de l'amour. On voit bien que malheureusement, même si un sujet peut être intéressant, parfois ils sont traités juste parce qu'ils peuvent être populaires et justement faire des chiffres malheureusement. On se retrouve avec des auteurs qui, bien qu'ils soient très très populaires, bien qu'ils publient beaucoup, au final c'est plus gage de leur qualité et de leur engagement en tant qu'écrivain, mais juste en tant que personne qui veut faire du profit, ce qui du coup peut faire d'autres polémiques comme Hoover dont vous aviez parlé avant.
Donc pour moi, on est parfaitement dans la continuité de Wattpad, parce que du coup, à cette époque-là, il fallait publier un chapitre quasiment tous les mois maximum, et le mieux, ça serait toutes les semaines. C'était très attendu, très demandé. Comme tu as dit tout à l'heure, Maëly, c'était très facile à lire, donc les gens enchaînaient les chapitres sans problème, donc ils étaient dans l'attente très rapidement de la suite. Et je pense que ça, c'est pareil avec, par exemple, La Caisse Stone. C'est quand même une série de livres importante, mais qui est quand même apparue très rapidement, parce que les gens étaient dans l'attente de la suite. Pareil, c'est pas une preuve d'une qualité d'écriture, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est toujours dans cette logique de Wattpad dont ça tire ses origines, c'est sûr.
En fait, il faudrait juste trouver un juste milieu entre l'authenticité qu'on a de la new romance, les sorties et le gage de qualité, en fait, sur la construction du récit, notamment.
Bah, on peut même se poser la question, du coup, est-ce que c'est bien d'être sorti en dehors de Wattpad? Est-ce que ça aurait dû rester que sur cette application? Moi, je trouve que c'est quand même bien que des gens arrivent à vivre de ça, d'arriver à vivre de l'écriture, et justement laisser l'accès à beaucoup plus de monde d'entrer dans ce milieu-là. Mais c'est vrai qu'il peut quand même y avoir débat.
Je vous propose qu'on laisse un peu de côté tout ce débat autour de la montée du genre et qu'on passe plus sur les problématiques au sein des livres, et notamment sur les schémas amoureux. Qu'est-ce qu'on trouve vraiment comme schéma amoureux dans la new romance? Là-dessus, on parle de tropisme pour les dynamiques de couple. Le tropisme, c'est une sorte de stéréotype, c'est le fait que le couple soit conditionné à un certain schéma. On parle de force irrésistible et inconsciente qui pousse quelqu'un à agir d'une certaine façon déterminée, un espèce de comportement réflexe. Ces tropismes, stéréotypes, on les trouve beaucoup dans la new romance. On parlait tout à l'heure du enemies to lovers, on a aussi les amours interdits, les triangles amoureux. Il y a toujours un sort de schéma amoureux qui se présente.
Déjà, pour moi, ce qui fait ça, c'est que c'est surtout que ça se cadre toujours, comme j'ai dit, pour toucher des gens assez jeunes. Donc, on va viser des problématiques qui touchent les jeunes. Donc, toujours une entrée dans une nouvelle école ou dans une nouvelle carrière professionnelle. Vraiment, les débuts, ça va toujours être autour de la vingtaine, en tout cas. Ça, c'est sûr, les problématiques. Donc, les situations vécues vont souvent se ressembler. Donc, ça va enfermer les scénarios dans des scénarios préfaits, ça, c'est sûr. D'un côté, c'est sûr que ça va simplifier les lectrices. Je dis les lectrices parce que comme elles sont en majorité, hein, ça peut être les lecteurs aussi, évidemment. Mais ça va simplifier, du coup, ce principe d'identification, de se projeter plus facilement. Mais du coup, on arrive à cette problématique de c'est trop souvent pareil.
Dans le cadre, comme elle vient de dire, que c'est trop souvent pareil, on a toujours des scènes où les filles sont sages et les garçons, ce sont les mauvais dans l'histoire. Et comme je disais, soit l'héroïne, elle est vulnérable. Et il y a toujours une domination masculine dans toutes les histoires dont elles sont similaires, comme elle vient de dire.
Ouais, t'as vraiment un rapport de domination. Le rapport de domination, il peut se voir sous plusieurs formes. Soit c'est un rapport de domination via l'âge, le gars est plus vieux que la meuf, via le statut. On a beaucoup les histoires avec
le mafieux, l'homme riche,
l'entrepreneur, le chef de boulot, etc. dans les romances un peu plus soft, on va dire. Et enfin, par la violence, simplement. C'est qu'il y a vraiment des scènes de viol qui sont mises dans ces livres-là.
Qui sont très détaillées aussi.
Qui sont très détaillées. Et qui sont absolument banalisés.
Bah, pour revenir sur les scènes sexuelles très détaillées, l'aspect positif, je ne parle pas pour le cas de viol, mais l'aspect positif, c'est que du coup, on pourrait dire ça explore la sexualité du point de vue féminin, ce qui est quand même assez rare. Souvent, c'est très masculin, le fameux male gaze, etc. Donc ça peut être intéressant d'explorer ce désir féminin beaucoup plus détaillé. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est trop mêlé à des dynamiques de domination, de violence, qui sont parfaitement normalisées. Et qui sont du coup lus par des lectrices qui sont souvent assez jeunes. Et le problème, c'est que quand t'es jeune, t'es en train de construire ta vision des relations. Donc quand on t'expose à ça, et que toi t'es en pleine réflexion de « Ah bah comment ma relation va devoir ressembler ?», c'est difficile après d'accéder du coup à des relations plus saines, on va dire, quand on les visualise par ce prisme-là.
Au final, tu te retrouves à essayer de calquer des comportements que t'as pu voir donc, par justement ces livres, par n'importe quel type de média. Et c'est vrai que c'est là où ça devient problématique. Pour la new romance, comme pour n'importe quel média ou style de contenu artistique, le fait qu'on y soit exposé va dans tous les cas modifier la manière dont on voit les choses. Donc c'est vrai que si on fait un contenu qui banalise trop des scènes de violence ou des scènes de sexe, au final, les jeunes filles, ou même les jeunes garçons, pourront se retrouver à avoir des visions complètement biaisées de comment ces relations, ces comportements sont supposés avoir lieu. Et ça peut avoir donc un impact négatif sur comment ils vont se construire, comme tu as dit, avoir des visions complètement biaisées de comment les choses doivent avoir lieu. Et ça peut donc avoir une mauvaise influence puisque tu te retrouves avec des comportements pas forcément sains dont il sera difficile de s'en sortir. Avec l'exemple des scènes de sexe où justement le fait qu'elles soient trop représentées dans certains ouvrages, ça peut justement inciter donc les jeunes filles à avoir certaines tendances qui ne seront bonnes ni pour elles ni pour leur partenaire et qui aussi aura pour tendance à banaliser aussi certains comportements qui ne devraient pas toujours l'être. Et on revient aussi donc sur le sujet de la violence et parfois même donc le viol où justement ce sont des choses qui, à force de trop apparaître, même si elles peuvent être dépeintes de manière négative, le fait d'y être beaucoup exposé va avoir une tendance à normaliser la chose et à se dire que ah bah c'est peut-être pas si grave que ça en ait l'air, alors que si, justement, ce sont des sujets graves, la surreprésentation de ces sujets peut avoir une tendance à trop les banaliser, à les rendre acceptables, alors que ça ne devrait pas.
Pour moi, on rejoint parfaitement les problématiques de l'industrie pornographique, hein, c'est à son comble.
J'allais dire exactement la même chose, ouais. Ouais, t'as vraiment ce problème-là que tu retrouves dans le porno. Banalisation de la violence, faux préjugés. On n'est pas dans la sexualité et de comment tu le découvres quand t'as tes premiers rapports. T'es vraiment dans un truc qui est beaucoup plus brut, beaucoup plus violent et hard. C'est terrible d'avoir ces idées-là et ces rapports-là avant d'avoir ces premières relations. Et c'est un truc qui ressort, ça commence à ressortir. Les meufs qui ont commencé à lire de la nuromance à 12, 13 ans commencent à dire « Les gars, ok pour la nuromance, mais soft ». Parce que moi, là, j'ai des problèmes avec ça, et j'arrive plus à passer outre tous les stéréotypes et toutes les visions que j'en ai. Et ça se répercute sur vraiment les relations globales, avec des hommes violents et des femmes qui acceptent ça parce que ça a été banalisé dans leurs œuvres préférées.
Parce que c'est sûr, il faut toujours distinguer réalité et fiction. C'est comme le débat sur le jeu vidéo, en mode les jeux vidéo rendent violents, parce que si t'as joué à GTA et que t'as écrasé un piéton, tu vas devenir violent dans la vraie vie. C'est sûr que lire une New Roman soit du viol, ça veut pas forcément dire que tu vas systématiquement accepter toutes tes relations sexuelles non consenties. Mais ça a clairement un réel enjeu sur les représentations et sur comment du coup la femme va se voir. Mais ça peut même être en dehors du coup du contexte sexuel pour moi, parce que l'aspect des new romans, c'est aussi de toucher beaucoup le psychologique, les fissures du passé, ce que ça peut créer. Donc ça peut être très intéressant dans une relation, les dynamiques comme ça, de comment un harcèlement vécu ou une relation difficile familiale impacte des relations, parce que c'est un fait. Mais d'un côté, il y a toujours ce truc de c'est la femme qui va sauver l'homme. D'abord, il y a l'homme, du coup, par sa force, qui va la sauver de situations. Par exemple, si elle se fait agresser ou quoi, c'est lui qui va l'aider. Mais dans le contexte psychologique, c'est elle qui doit être là. Ça rejoint beaucoup ce syndrome du sauveur, souvent chez les femmes, du coup, de « oui, il m'a fait du mal, mais lui, il souffre encore plus, et c'est mon rôle de le sauver. » Et ça, pareil, c'est une dynamique très mauvaise, parce que ça normalise des femmes à aller vers des hommes qui sont plutôt violents, qui ont des profils quand même toxiques. Mais du coup, de vouloir essayer de creuser, de découvrir ce qui a pu leur arriver. Et donc, c'est forcément une explication à tout comportement toxique. Ça peut tout justifier. Et donc, c'est le rôle à porter en tant que femme de les aider, de jouer la psychologue, l'infirmière. Et c'est très mauvais.
Pour rejoindre ce qu'Elma vient de dire, la new romance, elle influence parfois même des jeunes à avoir des relations amoureuses un peu plus passionnantes, plus dramatiques. Parce qu'ils se disent, si c'est possible que c'est dans le livre comme ça, ça veut dire qu'il peut vivre cette vie-là dans la réalité. Ça encourage beaucoup à la jalousie excessive, souvent dans certaines histoires, et aussi le contrôle ou bien des comportements abusifs. Ils essayent de se représenter le personnage qu'ils ont lu, alors que ça ne peut pas se faire dans la vraie vie.
Pour rebondir sur cette idée de la jalousie, c'est pareil, c'est toujours très genré. Donc on avait parlé du syndrome du sauveur, mais il n'y a pas que ça, c'est toujours des dynamiques autour du genre. Donc l'homme va être jaloux, surprotecteur, parfois très insistant à la limite du harcèlement, ou alors très très froid, ou même au contraire très excessif dans ses émotions. Donc ça va donner des dynamiques comme Grumpy Sunshine ou Bad Boys Good Girl. Donc pareil, très schéma, assez cliché. Mais du coup, la femme, elle, en réponse, va être naïve, douce, à l'écoute, toujours aussi dans ce côté du sauveur. Donc c'est pareil, toujours genré.
Juste, j'ai une petite question. Tu parles donc de Grumpy Sunshine, mais c'est quoi en fait?
Alors, le Grumpy Sunshine ou Bad Boys Good Girl, c'est parmi la longue liste de toutes les dynamiques de couple qu'on peut retrouver. Donc, le Grumpy Sunshine, c'est l'homme très froid, qui ne s'ouvre pas facilement à une carapace très dure, alors que la femme, elle est naïve, toujours souriante, toujours optimiste. Donc, du coup, c'est elle qui va être un peu le rayon de soleil dans sa vie. Parfois, ça peut être l'inverse, ça va être la femme qui a subi beaucoup de choses dans sa vie, qui fait qu'elle est en souffrance, et l'homme, lui, au contraire, qui est tout le temps heureux, un peu le golden retriever, pareil, c'est toujours ce genre de dynamique. Donc il va un peu éclairer sa vie. Bad boy, good girl, pareil, c'est encore une fois cette dynamique-là. Donc le mauvais garçon, le mafieux, qui fait des actes très malsains. Donc c'est là où on va retrouver les relations toxiques, comme on avait expliqué, surtout autour du sexuel. Et la good girl qui va subir tout ça, mais qui va l'aider après à s'en sortir, à être un meilleur homme, donc toujours sauveur.
Toujours pour rejoindre ce qu'elle a dit par rapport au Grumpin' Sunshine, c'est l'homme, ça sera l'héros qui est sûr de lui, très sûr de lui dans son personnage, alors que la femme, ça sera peut-être l'héroïne qui est plus vulnérable et courageuse.
Dans ce que vous dites, moi, ça m'évoque beaucoup l'idée un peu classique du couple, de l'homme qui a des gros projets et qui est, comme tu dis, Laetitia, le héros, et la femme qui est là pour le soutenir dans ses projets et apporter en fait son soutien, être aux soins vraiment du gars et pas d'elle-même. Elle n'existe pas en tant que telle, c'est vraiment genre le soutien, le petit rayon de soleil à côté, quoi.
C'est ça, c'est rare qu'on ait un développement féminin que par elle-même, c'est souvent elle est là pour aider le personnage masculin, pour le soutenir. Et comme il y a toujours cette domination par rapport à la classe sociale, donc lui qui a un haut poste, donc beaucoup de responsabilités, ça va être lui qui va avoir plus d'importance, plus d'impact sur l'histoire, alors qu'elle, elle est toujours en soutien.
Du coup, c'est-à-dire que ça va créer petit à petit des stéréotypes, créer ou surtout maintenir des stéréotypes, où justement la femme serait le fameux petit être fragile à protéger, et où justement l'homme serait là avec son statut, avec son pouvoir, son influence, pour justement essayer de la protéger. Du coup, en plus, c'est là où ça peut revenir donc, sur le Grumpin' Sunshine. Il y en a un, donc justement, comme tu as dit, souvent l'homme, comme il est dans un milieu un peu violent, sera souvent assez renfermé sous lui-même. Et justement, la femme sera là en tant que, comme tu as dit, petit rayon de soleil pour briser la carapace. Et ce qui est dommage, c'est que de ce que je vois, ça a juste créé des schémas de comportement où vraiment juste les gens risquent de rentrer en fait presque dans ces espèces de, j'ai envie de dire, de cages où justement ils vont reproduire ces comportements parce qu'ils ont vu ça. Ils vont se mettre à se comporter d'une manière qui ne sera pas forcément la leur pour justement correspondre à ces attentes qui, du coup, bah, malheureusement, sont extrêmement stéréotypées et ne représentent quasiment en rien ce qui est vrai. Puisque, certes, ça arrive qu'on se referme beaucoup sur soi après des traumatismes. Ça presque banalise le fait que justement tu te retrouveras toujours dans cet état si tu vis des choses difficiles. Et surtout, pour moi, le principal problème, c'est que le message qui est renvoyé, c'est si tu veux t'en sortir, trouve-toi un soleil.
Ouais, au lieu d'aller voir un psy, c'est ça. Mais en fait, attends vraiment, qu'une femme vienne te sauver.
Ça, c'est attends une providence, débrouille-toi. Mais c'est presque comme si, en gros, faut pas s'en sortir par soi-même, il faut attendre l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, soit pour l'homme, ce soit attendre une femme qui viendra te sauver, et pour la femme qui est peut-être en difficulté dans sa vie. Et bah t'inquiète, il y aura un riche qui va débarquer un jour et paf, tu seras sorti d'affaire. Mais du coup, ça. Je trouve que c'est assez dommage parce que...
Et en échange de l'aide psychologique, elle obtient fortune. Mais
fortune,
du coup,
gloire et pouvoir.
C'est ça. Mais du coup, il y a toujours, pareil, cette idéalisation dont tu avais parlé tout à l'heure, et ça rejoint ce que disait Laetitia avec la jalousie excessive. C'est que du coup, on va être face à... Bon, bah, les premières relations, je les tente, mais mon petit ami, je le trouve pas assez jaloux, il est pas assez protecteur, alors que la jalousie excessive, c'est un comportement toxique, c'est pas quelque chose qui devrait être embelli. Mais du coup, beaucoup de jeunes filles pourraient se dire « Est-ce que c'est normal que mon copain ne me surveille pas comme le gars dans la Dark Romance qui en vient à surveiller où elle va, ses conversations ?» Enfin, c'est vraiment du contrôle, c'est plus de la jalousie à ce stade.
Et du coup, ça fait que ça crée des représentations complètement fausses de l'amour, où justement tu te dis « Ah bah, s'il m'aime, il doit me surveiller. » Et du coup, ça... En fait, ça crée une sorte de faux amour, une sorte de faux attachement, et surtout, comme tu as dit, ce désir de surprotéger et de trop contrôler. Et justement, ça... En fait, ça banalise dans l'amour des comportements qui ne devraient pas l'être. Et je sais pas, je trouve ça vraiment problématique, parce que du coup, bah, y a plein de gens qui vont, comme t'as dit, passer à côté de leur relation, parce que ça ne correspond pas à ce faux cliché auquel justement ils ont été habitués.
Sans aller jusqu'à la dark romance, dans les romances classiques, il y a un peu ce truc-là de dépendance. Moi, ça me choque des fois, genre ils écrivent des romances où la fille, elle attend 5, 10 ans, un gars qu'elle a vu un été. Genre, à quel moment tu fais ça? Et t'as vraiment ce truc-là de... L'amour absolu, l'amour incroyable que t'es capable d'attendre, qui va forcément revenir et tout ça. Et donc quand tu tombes pas sur ce coup de foudre, directement c'est pas le bon. Non, ça demande des efforts, c'est pas juste comme ça en claquant des doigts, waouh, on a une histoire incroyable. Et tout l'univers en fait fait qu'on peut continuer.
Surtout c'est pas à 18-20 ans que tu trouves forcément l'amour de ta vie avec qui tu vas finir pour toujours. Ça c'est sûr, ça n'existe pas. Mais d'un côté, voilà, j'ai pas envie de pointer du doigt les autrices ou les auteurs en mode ils banalisent forcément de manière consciente, c'est leur volonté. Je pense pas qu'il y ait ça. Souvent, c'est du coup beaucoup de l'autrice qui se met dans l'histoire, qui donne un peu son point de vue des relations. Beaucoup, c'est fantasmes personnels, mais ça date pas d'hier. Twilight, par exemple, quand on lit les livres, c'est pleinement les fantasmes de l'autrice, clairement. Mais du coup, pareil, on retrouve les mêmes dynamiques. Mais Twilight n'empêche pas que ce soit une œuvre culte que beaucoup de gens apprécient.
Puis en vrai, ça dépend des auteurs de New Romance, parce que de plus en plus, t'as des auteurs qui incluent dans leurs livres des notions de consentement, etc. Des choses qu'on ne retrouvait même pas dans les livres classiques. Livres classiques aussi, t'as une dépendance, t'as une absence de consentement, etc. En gros, pour moi, c'est à nuancer. C'est qu'on retrouve des schémas qui nous sautent aux yeux maintenant, mais à l'époque, c'était encore pire sur certaines relations.
C'est ça. Faut pas pointer du doigt que la New Romance. Beaucoup de livres ont ce genre de problématiques, mais pourtant, ça choque plus, je pense, aujourd'hui, parce que ça, on s'en rend compte. Clairement.
S'il y a ce besoin presque parfois de descendre la New Romance, du coup on cherche tous les arguments possibles sans se rendre compte que ces arguments s'appliquent justement à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres œuvres de plein d'autres genres différents.
Exactement.
Au moins ce qui est bien, c'est que ça met le doigt sur un problème qui est présent de manière générale dans l'écriture, mais c'est vrai que le fait qu'on l'associe que à la New Romance, bah, c'est un peu dommage puisque ça va juste dénigrer un genre qui a du potentiel. Et même s'il y a certains aspects de la New Romance qui peuvent être mauvais, il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui sont positifs, et c'est vrai qu'il faut réussir à se rendre compte que certes c'est un genre, mais il y a plusieurs types d'auteurs, plusieurs types d'histoires qu'on peut retrouver, et que justement, bah, ce serait vraiment dommage de limiter la New Romance que à ses points négatifs, mais aussi que à ses points positifs. Justement, il faut réussir à la voir dans son ensemble et dans toutes les facettes qu'il peut y avoir.
Ouais, c'est un genre très large, et t'as autant dans des trucs un peu dark romance où tu passes sur des livres un peu pornographiques, etc. Mais ça, ça existait déjà avant. Enfin, c'est pas nouveau qu'on retrouve ça. Pareil, les romances plus light, les enemies to lovers, etc. On a tous lu Les Liaisons dangereuses quand on était au collège-lycée. Ça va être un peu la même chose. Tu rentres, pareil, dans un schéma qui est hyper toxique, de faux-semblants et de jeux, etc.
C'est ça, complètement.
Pour moi, la New Romance, t'as un peu ce truc-là de transposition de plusieurs genres littéraires qui sont adaptés à comment on parle, comment on vit les choses aujourd'hui, aux enjeux sociétaux qu'on a actuellement. La New Romance, c'est juste des genres qui ont été réadaptés. C'est juste de nouveaux auteurs qui se présentent sur la scène éditoriale.
Du coup, ce serait juste un renouveau, justement, bah, New Romance, pour justement que les auteurs actuels n'aient pas à rentrer dans les cases du passé et qu'ils puissent justement s'exprimer comme ils voudraient à propos de sujets qui les concernent et qui, du coup, très souvent, nous concernent nous aussi, donc en tant que contemporains. Certes, on dit New Romance, mais ça pourrait presque devenir une sorte de... un peu de fourre-tout. Beaucoup de schémas, de récits, de types d'histoires, de types de personnages vont être réemployés dans cette New Romance, alors que ça peut être justement des éléments qui peuvent être issus de plein d'autres genres et qui du coup font que la New Romance peut ressembler à une forme d'amalgame de plusieurs éléments issus d'autres genres, avec une étiquette plus moderne. Donc justement, ce serait une sorte d'ensemble entre des éléments passés et surtout des éléments modernes.
Dans les autres aspects positifs, justement, comme on en a beaucoup parlé, c'est du coup des problématiques contemporaines. Donc le côté psychologique, c'est hyper intéressant à creuser.
Moi, je trouve que la New Romance, ça nous permet de plus explorer nos émotions, dans le sens où on ressent tout de façon excessive, que ce soit la joie, l'amour, la peine qu'il y a dans l'œuvre, même la jalousie, on la ressent plus profondément. Et ça nous fait nous poser plus de questions et se remettre en question sur comment on réagit dans notre vie de tous les jours par rapport à ce qu'on vient de lire. Et aussi, quand on lit la New Romance, ça renforce notre empathie dans le sens où les pensées, les sentiments des personnages, on les comprend mieux ou on essaye de se mettre dans la peau du personnage qu'on lit ou qu'on regarde.
Aussi, de ce que j'ai pu entendre, c'est que donc la New Romance, puisque c'est un style de roman qui est assez souvent assez léger, ça permet justement une forme d'échappatoire. Puisque, comme on avait pu dire au début d'émission, que justement ça ne reprenait pas des codes et des phrases trop complexes, c'est pas une lecture où tu vas te plonger, où tu vas réfléchir en permanence à essayer de comprendre déjà la phrase, ensuite comprendre le sens qu'il y a derrière. Là, c'est vraiment, tu vas plus ou moins vivre en même temps que le livre. Et donc, déjà, on avait parlé grâce au format Wattpad, où justement, tu peux lire des plus petits chapitres, généralement, puisque comme il y a des rythmes de parution assez soutenus, les contenus peuvent être raccourcis, donc plus facilement consommables. Et du coup, on peut voir donc, certains aspects de la New Romance comme justement une nouvelle échappatoire, où justement, au lieu de faire des choses donc, que t'as pas envie de faire, ou alors d'aller scroll sur TikTok, tu peux te retrouver à justement lire ces différents ouvrages, et justement te reposer en même temps. Ce sera pas donc une lecture qui te force à une surréflexion, mais vraiment une lecture où tu vas pouvoir te poser en même temps, savourer une histoire sans avoir à trop t'inquiéter, trop te préoccuper, trop réfléchir. C'est vraiment une sorte de moment calme. Et donc ça offre pas mal de possibilités, puisque au lieu d'avoir des livres compliqués, tu peux vraiment être là et juste profiter, sans avoir à trop te surcharger.
Puis ça a permis d'ouvrir à une autre part de la population le monde du livre. C'est que c'est plus facile de rentrer avec un livre de New Romance qu'avec un livre classique. Et ça, c'est la grande force. C'est qu'il y a plein de gens qui se sont mis à lire, à découvrir le monde du livre, à aimer ça, grâce à la New Romance, à une période où on était en mode d'ici quelques années, plus personne lira de romans. Si, maintenant on lit et on consomme différemment, c'est tout.
C'est vrai quoi, il y a souvent justement cette discrimination envers ces œuvres un peu plus nouvelles, Mais c'est vrai que comme tu as dit, bah, ça permet un regain d'intérêt dans certains médias qui étaient de plus en plus en déclin. Bah, comme tu as dit, le livre, il y a de moins en moins de personnes qui lisaient. Et c'est vrai que grâce à justement la new romance et peut-être d'autres genres, j'entends par exemple les romantaisies, donc les nouveaux styles de fantasy, où justement ça permet un regain d'entrain donc, dans ces domaines, et que justement les gens s'y intéressent à nouveau, et que ça revienne un peu sur le devant de la scène, là où ça commençait de plus en plus à disparaître. Et même si au final le genre en lui-même est peut-être moins sérieux que d'autres, ça peut donner ensuite envie de se plonger dans des lectures plus sérieuses, dans d'autres styles, et justement petit à petit de s'ouvrir à plein d'autres contenus, chose qui aurait été impossible s'il n'y avait eu que des gros pavés à lire à la base.
Bon, en conclusion, la new romance, déjà, il y a une montée du genre. En 2023, ça représente 7% du marché seulement papier. Et on sait que, on l'a vu avec Wattpad, c'est beaucoup plus large, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg. Ensuite, c'est une tranche d'âge, de 13 à 35 ans estimée. La new romance, par cette tranche d'âge, ça permet aussi une ouverture à un autre public, qui n'avait pas forcément accès au livre, ou qui ne s'y intéressait pas. C'est une première entrée dans le monde du livre. C'est une entrée car ça permet une meilleure identification. On sait qu'on a des problèmes inhérents à notre génération qui sont bien retranscrits dans ces œuvres de new romance. On retrouve vraiment les problèmes qu'on a actuellement en tant que jeunes adultes, en tant que société, avec les problèmes environnementaux, la peur, etc. Mais on a quand même une certaine érotisation dans ces livres-là qui va être assumée. On va érotiser des comportements, des schémas amoureux souvent toxiques et qui sont vraiment à boycotter pour le coup. Ça se répercute sur notre perception de la société, notre perception des relations qu'on veut par la suite. Et on trouve des gens qui, derrière, témoignent de réel impact qu'ont ces livres sur leurs premières expériences. Donc le fait que le public commence à partir de 13 ans, ça peut poser souci à certains moments. Mais bon, c'est un genre qui est très large, qui est nuancé. On a la dark romance qui va vraiment dans des dérives, mais on a aussi des romances qui sont plus soft, plus adaptées à un public jeune. La new romance, c'est hyper large et c'est amené à évoluer. Tous ces problèmes y ressortent, on en parle de plus en plus. Et en vrai, on espère qu'à l'avenir, ce sera des soucis où on aura un regard extérieur dessus et plus de maturité vis-à-vis de ces livres. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était Maïli,
Ethan,
Elma,
Laetitia.
Pour le dernier mot, à une prochaine fois!